mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 15 janvier 2026. Pas de sommaire aujourd'hui, on s'y met directement avec un communiqué qui est tombé dans la boîte mail il y a à peine une heure, un communiqué émanant de la Confédération Paysanne et son siège de Marvejols-les-Gardons. On y apprend que 52 paysans et représentants du syndicat ont été gardés à vue, sont en garde à vue, pour une occupation pacifique. C'était hier, hein, plus de 150 paysans et paysannes de la Confédération Paysanne sont venus de toute la France, avec une importante délégation venue des départements d'outre-mer. Ils ont envahi hier après-midi le ministère de l'Agriculture pour faire une occupation pacifique. Et bien 52 d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue, dont les trois porte-paroles nationaux ainsi que le président de la Chambre d'agriculture de Guyane. L'enjeu de cette mobilisation, de cette action, était de dénoncer la politique agricole du gouvernement, la Confédération paysanne s'opposant à la gestion de l'épidémie de DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, et il s'oppose aussi à la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Enfin, l'accord de libre-échange Mercosur-UE. L'objectif était aussi pour eux d'exiger la décolonisation de l'agriculture. Entendez par là de mettre en œuvre les mécanismes encore post-coloniaux qui s'opèrent bien souvent dans ces domaines. Des agriculteurs et des agricultrices donc d'outre-mer étaient venus pour clamer la solidarité entre paysans et pour contester justement l'accaparement des subventions publiques par un petit nombre d'exploitants des grands groupes industriels, souvent bien représentés notamment dans la FNSEA. Voici le communiqué de presse faisant suite à ces gardes à vue. Encore une fois, les manifestants ont été nassés avec une violence inadmissible par les forces de l'ordre, dont la brave M. À plusieurs reprises, les journalistes ont été empêchés de filmer la manifestation pacifique organisée par la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole représentatif. À pied et sans aucune violence, les paysans ont pénétré dans le hall de la DGPE, déroulé des banderoles à l'intérieur et sur toutes les grilles du bâtiment, pour exiger donc la décolonisation de l'agriculture, des lobbies de l'agro-industrie et de la FNSEA. Donc c'était une antenne du ministère de l'Agriculture qu'ils ont occupée. Dans cet article, voici ce qu'ils disent aussi. Le mépris du gouvernement envers le monde paysan est constant. Les déclarations avant-hier du Premier ministre comme de la ministre de l'Agriculture en sont une nouvelle illustration. La Confédération paysanne du Gard demande donc la libération immédiate des 52 paysans incarcérés, un changement radical de politique agricole et la fin de la cogestion scandaleuse de l'agriculture française par la FNSEA. C'est signé donc le comité départemental de la Conf du Gard. Le syndicat au niveau national appelait d'ailleurs un rassemblement ce jeudi à la mi-journée devant le commissariat du 18e arrondissement de Paris pour demander la libération immédiate des gardés à vue et protester contre le deux poids deux mesures de ce gouvernement dans la répression syndicale et les réponses politiques aux demandes des agriculteurices. Pour rappel aussi, il y avait deux représentants de la Confédération paysanne qui avaient été arrêtés à Paris, des porte-paroles, alors que les tracteurs justement étaient montés dans un pacifisme assez grand sur Paris, là aussi pour s'opposer au Mercosur. La mobilisation d'hier intervenait au lendemain d'une nouvelle salve d'annonces gouvernementales. Hein. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait notamment promis une loi d'urgence agricole portant sur la prédation, et notamment du loup, hein, je vous en ai parlé, ce qui n'est pas a priori dans les demandes là urgentes, mais aussi sur l'eau et les moyens de production. Un gros paquet de lois pour répondre à la crise agricole qui permet de faire passer pas mal de sujets polémiques. Ces mesures recoupent là, encore une fois, les revendications de l'Alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs, qui sont les syndicats agricoles majoritaires.
L'air pur,
L'Empire a une terre saine. De ces trois choses, n'en plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Et pour continuer dans ce premier volet donc consacré pas mal à l'agriculture française et à tous les ressorts que cela peut avoir sur nos vies quotidiennes, un bel exemple de pantouflage, tiens, puisqu'on parlait des dirigeants, c'est l'ancienne conseillère communication du ministère de l'Agriculture, à savoir Anne-Charlotte Nau-Juillard. Et bien désormais, elle travaille pour Nestlé Waters. C'est après un an qu'elle a passé au service presse donc d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Cette communicante a rejoint donc le 12 janvier dernier Nestlé Waters France en tant que directrice de la communication et de la RSE. Auparavant, elle avait dirigé la communication et la RSE pour le site de vente en ligne Showroom Privé, après avoir été directrice conseil chez Tadeo. Donc spécialisée dans la communication, elle est passée de l'agriculture à Nestlé Waters, et cela alors que la multinationale de l'eau est justement au cœur d'une affaire de fraude, hein, potentiellement couverte par l'État. C'est pas encore terminé cette histoire, mais on en a parlé souvent. Cette embauche donc d'une ancienne agente du gouvernement a de quoi interroger et surprendre. Le pantouflage, hein, c'est le nom de ce genre de pratique. C'est le fait qu'un haut fonctionnaire aille travailler dans une entreprise privée peut poser des problèmes éthiques et déontologiques et générer des situations de conflit d'intérêts, rappelait l'ONG Transparency International. Tu m'étonnes.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
Allez, Magouille, on reste un peu dans le secteur. On va parler des pesticides et du gros de l'usage en fait qui en est encore fait malgré les interdictions. Dans donc une affaire de pesticides interdits, la prison ferme a été requise contre celui qu'on surnomme le roi de la salade. C'était donc un procès d'exception qui s'est terminé ce 14 janvier à Marseille après 3 jours d'audience. En matière d'infraction agricole, normalement, il est rare en effet que l'affaire aboutisse à un procès. On a vu le cas avec le traitement des travailleurs salariés, là aussi du côté de la plaine de l'Acro et des Bouches-du-Rhône, qui est décidément une zone qui aime bien faire un petit peu ce qu'elle veut avec la loi. Cette affaire est hors norme de par la taille des exploitations mises en cause, explique par exemple Hervé Cloâtre, qui est enquêteur pour la BNEVP, c'est la Brigade Nationale d'Enquête Vétérinaire et Phytosanitaire, et il était appelé comme témoin lors de cette audience donc à Marseille. Deux des exploitants agricoles mis en cause, un des grands patrons, comptent parmi les plus importants du maraîchage français. Tout d'abord Didier Cornille et son entreprise Reveni, je ne sais pas comment on dit, plus de 2000 hectares situés entre les Alpilles et la Camargue. C'est donc un des plus importants producteurs de salade en France. Si vous achetez encore de la salade sous plastique, vous en aurez par exemple sous les marques Bonduel, Les Crudettes ou Florette. L'autre mise en cause s'appelle Frédéric Berle et sa société s'appelle D Sans Souir, qui regroupe environ 1300 hectares, et lui, c'est un des premiers sur le marché du melon. Mais en tout, ce sont 6 agriculteurs, entre la Drôme et les Bouches-du-Rhône, qui ont été mis en cause donc pour la détention de pesticides interdits en France sur une période qui couvrait de 2019 à 2024. Et à leur côté, l'homme qui a servi d'intermédiaire avec une société espagnole, une société de produits phytopharmaceutiques qui vendait donc les fameux pesticides, lui est mis en cause pour avoir importé ces produits. Face aux risques environnementaux et pour la santé humaine, donc ce sont 8 associations et un syndicat, la Confédération Paysanne encore elle, qui étaient parties civiles dans cette affaire. On peut citer dans les associations France Nature Environnement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et Génération Future, ou des associations de consommateurs, l'UFC Que Choisir et Consommation, et également Logement et Cadre de Vie. Voilà. 2 peines de prison ferme ont été requises hein, suite à ces 3 jours d'audience. 6 mois pour Didier Cornille, le roi de la salade. 10 mois pour le fournisseur Alain Hébrard, lui c'était l'importateur, âgé de 78 ans, qui s'appelle, son titre c'est apporteur d'affaires. C'était une première donc que de la prison ferme soit requise dans une affaire de ce type. Les autres prévenus, eux, encourent des peines de prison avec sursis, allant de 4 à 8 mois, et des amendes importantes sont requises. 65 000 euros pour le fournisseur et de 15 à 40 000 euros pour les exploitants, 35 000 à 80 000 euros pour ce qui est de la société. Cette enquête a été menée donc par la gendarmerie et la BNEVP et elle a donc révélé un large réseau d'importation de pesticides interdits en France. Au total, ce sont 3,5 tonnes de ces produits retrouvés pendant des perquisitions au sein de ces exploitations agricoles, dans les hangars. des quantités relativement peu importantes, a noté le procureur, mais il souligne que l'enquête ne fait qu'effleurer le sommet de l'iceberg. Et il explique au tribunal qu'il ne faut pas juger des volumes, mais du système. En effet, s'ils utilisaient ça régulièrement dans leur champ, il y a des chances qu'ils n'avaient pas tout stocké d'un coup pour l'année, mais que c'était un système régulier comme ça. Il est saisissant, en rappelait le procureur, de voir à quel point la démarche délictuelle est fondée sur la recherche de rentabilité maximale. Ce dossier révèle un système appliqué par des grosses entreprises qui dominent le marché. Et si ces produits interdits n'étaient pas indispensables, ils étaient néanmoins bien moins chers que leur équivalent légal. À la barre, les quatre agriculteurs présents ont plaidé la négligence ou la faute professionnelle pour expliquer la présence de ces pesticides interdits dans leur stock. Du côté de leurs avocats, la défense dénonce le manque d'éléments factuels qui démontreraient que les produits aient bien été utilisés. Le jugement, lui, sera rendu le 7 avril.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, on va pas y couper, on va faire un petit tour par l'actualité internationale, mais qui est tellement chaude et grosse que souvent, bah, je préfère la laisser de côté, vu que de toute façon, on en est bombardé de tous les côtés. Alors quand même, trois actualités géopolitiques d'importance relevées sur la revue de presse de l'Oconst sur Internet, qui fait un gros boulot notamment aussi sur la désinformation climatique. Tout d'abord, c'est au Groenland, hein, avec la rencontre entre les responsables américains et une délégation danoise et groenlandaise à Washington, qui n'aurait pas permis de résoudre le désaccord fondamental au sujet du Groenland. Le ministre des Affaires étrangères danois a déclaré de son côté n'avoir pas réussi à infléchir la position américaine. Il affirme qu'il est clair que le président Trump souhaite conquérir le Groenland. Bien que les deux parties se soient entendues sur la création d'un groupe de travail qui serait chargé d'examiner les moyens de surmonter ces différends, le Danemark a fait savoir qu'il renforcerait sa présence militaire au Groenland. En signe de soutien, vous l'avez peut-être entendu, la France, l'Allemagne, la Suède et la Norvège ont déclaré y envoyer des soldats. Bon, on parle de dizaines d'hommes, hein. La France sous couvert d'un exercice grand froid, l'Allemagne, elle, d'une mission d'exploration. Et pour la Suède, il s'agirait de préparer les prochaines étapes de l'exercice militaire danois Operation Arctic Endurance. Mais je vous dis, là, on parle de 10 ou 20 personnes, j'aimerais pas être à leur place. L'envoi de ces troupes européennes en appui contre un membre de l'OTAN, en tout cas, il est symbolique et il pourrait peut-être bien signer à moyen terme la mort de ce traité de l'Atlantique Nord. On reste avec les affres de M. Trump, hein, en Iran, après que le président américain a menacé à plusieurs reprises d'intervenir en soutien aux manifestants en Iran. Un haut responsable avertissait les pays voisins que l'Iran ciblerait les bases militaires américaines de la région en cas d'attaque. Bon là, il a fait un petit peu volte-face en disant « oui, il semblerait qu'il n'y a pas trop de répression et que donc c'est pas la peine d'attaquer ». Ce qui peut être contredit en tout cas par le terrain et les vidéos, mais bon, tant mieux pour l'instant. En réaction en tout cas, les États-Unis, en prévision donc peut-être de ces attaques, ont retiré le personnel de leur base militaire. Le Royaume-Uni également a retiré son personnel d'une base aérienne au Qatar. Et deux responsables européens ont indiqué, sous couvert d'anonymat, qu'une intervention militaire américaine pourrait avoir lieu dans les prochaines 24 heures. Un responsable israélien, lui, indiquait également qu'il semblait que Trump ait décidé d'intervenir, même si l'ampleur et le calendrier demeuraient incertains. Ça dépend un peu de l'humeur du bonhomme, apparemment. Ces derniers jours, en tout cas, des dizaines de navires marchands ont jeté l'ancre au large des limites portuaires iraniennes pour éviter tout dommage collatéraux en cas de frappe. Selon les services de renseignement turcs, ce sont des groupes séparatistes kurdes qui auraient également tenté d'entrer en Iran. Un signe peut-être que les entités étrangères cherchent à profiter de l'instabilité après plusieurs jours de répression des manifestations qui secouent le pays. Trump a plus tard déclaré que les exécutions en Iran étaient en baisse, hein, donc qu'il ne croyait pas qu'il y ait plus de plans d'exécution à grande échelle. Mais il faut rappeler en termes de géopolitique que l'importance du détroit d'Ormuz pour ce qui est du transport pétrolier et de marchandises signifie en tout cas que toute escalade dans la situation aurait des répercussions mondiales, donc ils y réfléchissent quand même à deux fois. Et on termine ce petit tour de l'actualité un petit peu belliciste autour du monde. On va en Arménie avec là encore les Américains et notamment leur fameux chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui fait tout sauf de la diplomatie, qui affirme que les États-Unis allaient faire avancer leur projet de corridor traversant l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan, et qu'une entreprise qui est à 75% américaine serait chargée d'y construire des infrastructures ferroviaires et routières. L'Iran, justement, s'oppose depuis longtemps à ce corridor, puisqu'il craint qu'il ne le coupe du Caucase en amenant une présence étrangère à sa frontière. La Russie, dont l'Arménie est historiquement dépendante, elle aussi avait annoncé qu'elle devrait être impliquée normalement dans ce corridor. C'est Mikhaïl Kalougin, qui est haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères. Il s'était dit prêt à la mi-décembre à étudier les détails de ce projet arméno-américain en précisant que le réseau de voies de chemin de fer arménien était géré par une compagnie russe, la compagnie nationale russe, et que le corridor traverserait pour la majeure partie justement la zone où les gardes frontières russes sont responsables. Donc ça risquait de poser des petits problèmes. Il rappelle que l'Arménie faisait partie de l'Union économique eurasiatique et que nos partenaires ne peuvent se passer de la Russie. Pourtant, d'après le vice-président du Parlement arménien, aucune discussion sur une éventuelle implication russe ne serait prévue dans ce qui sera appelé la route Trump pour la paix et la prospérité internationale, ça fait TRIP en anglais, le conflit territorial qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le territoire du Karabakh revêt donc une importance géostratégique majeure depuis la guerre froide, le Caucase du Sud étant un peu un rôle charnière entre l'Europe et l'Asie, pour ce qui est des transports d'énergie et de commerce, et les efforts déployés par l'administration Trump en Arménie témoignent d'une volonté de prendre le contrôle donc de cette zone stratégique. Et ce faisant, Washington pourrait bien assombrir sa relation avec Poutine et envenimer encore les tensions avec l'Iran. Voilà un petit peu pour tout ce qui se passe sur cette grande partie d'échecs où il n'y a pas de maître visiblement à la manœuvre. Les sources de cette revue de presse, c'était les agences de presse Reuters et à l'AFP, Le Guardian, Le Monde et le Armenian Weekly.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Allez, on revient de l'actu plus terre-à-terre, plus proche de nous, et plus de la rue. On va à Montpellier avec la question des épiceries de nuit qui remue un petit peu en ce moment l'actualité. Un arrêté municipal vient d'être pris contre les épiceries de nuit et c'est un avocat qui attaque cet arrêté municipal en dénonçant une stratégie de gentrification. C'est ce qu'on lit dans les colonnes du média local Le Point. Donc un avocat de Montpellier veut contester devant la justice cet arrêté municipal qui limite l'activité des épiceries de nuit. Il accuse donc ainsi la mairie de détourner ses pouvoirs en diffamant une profession entière, en l'accusant de lien avec le narcotrafic, et il dénonce un projet de gentrification du centre-ville pour le rendre instagrammable sous couvert d'ordre public. Ça pourrait être un petit caillou dans la chaussure de Mickaël Delafosse à quelques semaines des élections municipales, dans ce qui est quand même pour lui visiblement un coup de com' aussi dans le but de ces élections municipales. On va voir donc les effets que ça a là-dessus. Donc c'était hier que l'avocat du barreau de Montpellier a annoncé le dépôt de plusieurs recours devant le tribunal administratif et une plainte pour diffamation publique contre le maire, Mickaël Delafosse. En cause donc cet arrêté pris par Montpellier en ce début d'année, celui-ci impose aux épiceries de nuit de fermer toute l'année, du jeudi au lundi, entre 22h et 6h du matin. Donc un espèce de week-end étendu, et ce, dans plusieurs zones de la ville, dont le centre. L'arrêté qui existait déjà avant délimitait ses horaires de fermeture uniquement aux périodes de vacances scolaires. Donc pourquoi un nouvel arrêté, s'interroge l'avocat Maxime Martinez, pour qui la ville dispose déjà de tous les outils juridiques nécessaires, s'il le faut, pour sanctionner des établissements qui seraient en faute, sans passer par une interdiction générale. Il explique donc dans sa plaidoirie, cette mesure est disproportionnée. Il suffirait juste pour la mairie d'attaquer un commerçant qui ne respecte pas les règles au tribunal et prononcer ainsi une fermeture définitive. Des fermetures définitives, à ma connaissance, ajoute-t-il, il n'y en a eu qu'une seule. Cet arrêté sert donc surtout à stigmatiser l'ensemble d'une profession pour tuer un secteur qui fait tache dans un centre-ville qu'on voudrait rendre instagrammable, à savoir donc plus propre et plus poli. Un terme employé par les deals, Delafosse, qui est assez fan d'Instagram et qui, selon l'avocat, est traduisible par donc une gentrification du centre-ville. Cela alors que le très droitier Mickaël Delafosse, qui rabâche des obsessions sécuritaires depuis plusieurs mois, qualifiait il y a quelques jours les épiceries de nuit de vitrines du narcotrafic. Il avait d'ailleurs grandement mis en scène la démolition d'une partie de celle-ci dans un des quartiers de Montpellier. L'avocat Maxime Martinez, lui, y voit des propos diffamatoires pour tout un secteur d'activité, et on ne parlera pas du racisme sous-jacent à ces propos. On peut considérer que chaque exploitant est personnellement atteint par ces propos qu'il associe à des infractions pénales graves, ajoute-t-il. et dans un geste présenté comme militant, donc l'avocat a également annoncé qu'il allait mettre à disposition justement des gérants d'épiceries de nuit, ses travaux juridiques et des modèles de requêtes pour les aider s'ils veulent faire des recours individuels contre cet arrêté. Il faut que ces commerçants puissent se défendre même s'ils ont peu de moyens pour payer un avocat, affirmait-il donc dans les colonnes du journal Le Point avec un G. On reste dans la région avec beaucoup de signes de montée de l'extrême droite, en tout cas de ses manifestations dans des lycées d'Occitanie. C'est le syndicat Sud Collectivité Territoriale, hein, Sud CT, qui interpelle la présidente de la région, Carole Delga, après avoir découvert à plusieurs fois des symboles néo-nazis dans plusieurs des lycées de la région. On parle de croix celtiques taguées dans les toilettes, des slogans suprémacistes gravés sur des murs, ou des autocollants de groupuscules identitaires aux abords des établissements. Tout cela a été découvert ces derniers mois. La situation est donc jugée suffisamment grave pour que ce syndicat Sud CT, région Occitanie, adresse une lettre ouverte à la présidente Carole Delga. Elle a été rendue publique, celle-ci, la semaine dernière, le 8 janvier. Dans les faits qui sont signalés, la présence répétée de tags fascistes, notamment au lycée Georges Pompidou à Castelnau-le-Lez, où des croix celtiques ainsi que le slogan « Europe Jeunesse Révolution » ont été retrouvés dans les toilettes des élèves. Ce slogan était notamment scandé par les milices de Troisième Voie. Selon le syndicat, une croix celtique a même été apposée directement sur le logo de la région, il y a la photo en tête d'ailleurs de l'article, avant d'être effacée par les services de l'établissement, sans pourtant que la question d'un dépôt de plainte ne soit clairement tranchée. Qui aurait peut-être été différent si ça avait été, je ne sais pas, des symboles d'anarchistes ou pire encore, un symbole islamiste, comme on dit maintenant. D'autres établissements sont cités, le lycée Le Garros à Auch, où là, ce sont des gravures de croix celtiques aussi qui ont été relevées. Dans le communiqué, un communiqué qui a été diffusé sur Instagram, justement, des lycéens de Georges Pompidou parlent d'attaques répétées qui sont menées depuis le mois d'octobre par l'extrême droite néo-nazie. Ce n'est pas du vandalisme, disent-ils, c'est une offensive idéologique. Ils dénoncent une stratégie d'intimidation et de marquage du territoire. Ils appellent à ne pas banaliser ces actes et à refuser le silence complice. On parle un petit peu de la croix celtique aussi dans cet article, hein. Il est rappelé qu'elle a été utilisée dès l'entre-deux-guerres par des courants collaborationnistes, puis reprise après 1945 par des groupes d'extrême droite radicale, comme Jeune Nation ou Occident. Cette croix celtique, hein, c'est une croix dans un rond, elle est aujourd'hui un marqueur central du suprémacisme blanc et du néo-nazisme. En France comme en Europe, donc, quand on voit une croix celtique, c'est ce qu'on appelle un dog whistle, hein, un sifflet pour chien. C'est un signe de reconnaissance, compris des initiés, mais suffisamment ambigu pour passer inaperçu ou être minimisé, notamment quand il est tagué sur des murs, par exemple, soutien aux agriculteurs, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Sud CT, donc collectivité territoriale, alerte donc toujours aussi sur ce climat plus large de banalisation du racisme et des discriminations. Ils évoquent des propos racistes entre personnels, des organisations du travail jugées discriminantes et une tendance persistante au pas de vague. Le syndicat rappelle avoir déjà signalé des menaces visant le lycée Joffre de Montpellier. C'était le 16 décembre dernier par un groupuscule identitaire violent qui promettait de venir dégager le blocus lycéen qui était fait en soutien à la Palestine. Si le blocage finalement s'est déroulé sans incident, le 18 septembre, lors d'une journée de mobilisation dans le cadre du mouvement Bloquons Tout, des élèves du lycée avaient subi des intimidations et des insultes sexistes de la part d'un groupe d'extrême droite qui a commis plusieurs exactions pendant la journée. Alors du côté de la région, c'était pendant une rencontre le 15 décembre dernier que la présidente Carole Delga a assuré vouloir agir avec fermeté et aborder la question avec des proviseurs au début de cette année. Le syndicat Sud s'était dit désormais attendre des actes concrets, à savoir des enquêtes administratives, des dépôts de plaintes systématiques quand de tels actes sont repérés, et un travail avec les syndicats et la communauté éducative. Quand les bâtiments scolaires deviennent les supports de propagande raciste, la collectivité doit réagir, insiste le syndicat. En tout cas, ce constat de la banalisation du racisme et des idéologies d'extrême droite, la représentante héraultaise de la FSU, Christine Saint-Joannis, le remarque aussi. Depuis quelques années, dit-elle, les collègues font remonter à notre syndicat de plus en plus de problèmes, voire de conseils de discipline liés à des élèves qui affichent une idéologie d'extrême droite. On en a vu faire des saluts nazis au collège. Une question que la section héraultaise de la FCPE, qui est la principale fédération d'associations de parents d'élèves, dit elle aussi prendre au sérieux. C'est un phénomène très nouveau et d'autant plus étonnant que la plupart du temps, les familles des élèves concernés sont très surprises au moment où elles apprennent les agissements de leurs enfants. Ça, c'est la présidente de la FCPE de l'Hérault, Marie Nikishine, qui l'explique. Elle fait le lien avec des vidéos masculinistes très populaires sur les réseaux sociaux. La FCPE entend d'ailleurs alerter le rectorat sur cette problématique pour tenter d'y trouver des solutions. Le rectorat a d'ailleurs été contacté aussi par les auteurs, par Elian Barascu, hein, qui est l'auteur de cet article, là aussi dans les colonnes du journal Le Point. Le rectorat donc affirme, lui, que le nombre d'atteintes aux valeurs de la République demeure stable au sein de l'Académie de Montpellier depuis 2 ans. Dans ces atteintes aux valeurs de la République, c'est les propos ou actes racistes et antisémites. Et il explique que ce nombre d'atteintes reflète les évolutions de la société. Pour faire face à ces problématiques, les responsables de l'Académie de Montpellier évoquent notamment un pôle académique valeurs pour prévenir et traiter ces situations, en coordonnant des référents laïcité, des équipes mobiles de sécurité et des acteurs éducatifs. Le rectorat, enfin, met en avant un plan de formation qui a été lancé en 2021, un parcours de 9 heures donc destiné à l'ensemble des personnels jusqu'en 2029. Ce parcours est axé notamment sur l'esprit critique, l'éducation aux médias et le climat scolaire, le tout avec l'aide d'un réseau de 100 formateurs académiques. Ce dispositif existe donc, mais il est jugé insuffisant, en tout cas par la représentante de la FSU. Elle y voit surtout une énième communication pour dire qu'il y a bien eu une réaction après la mort de Samuel Paty. Mais selon elle, 100 personnes sur toute l'académie, c'est trop peu pour traiter ces problèmes. Il nous faut avant tout des moyens pédagogiques pour discuter avec nos élèves. Le 12 janvier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution visant à garantir l'intégrité de l'information sur le changement climatique face à la désinformation climatique justement et aux ingérences étrangères. C'est un texte qui va s'adresser à la fois au pouvoir exécutif français mais aussi à celui de l'Union européenne. Les députés donc, par ce texte, cette résolution invite la Commission européenne à se saisir de la lutte contre la désinformation climatique sous la forme d'une feuille de route opérationnelle spécifique afin de centraliser la coordination de l'action des institutions européennes en la matière. Et il y a du boulot. Ils appellent également le gouvernement français à décliner cette initiative à l'échelle nationale et aussi à encourager les autres États membres de l'Union européenne à rejoindre cette initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur les changements climatiques. Ils souhaitent enfin que les gouvernements l'inscrivent dans leur contribution déterminée au niveau national pour la COP30. L'ONG Cota Climat, justement, qui lutte contre cette désinformation climatique, s'est réjouie de l'adoption de ce texte en France, qui, s'il n'est pas juridiquement contraignant, envoie malgré tout un signal politique fort et inscrit clairement le sujet dans le débat européen. Cette ONG appelle le gouvernement à traduire la résolution en acte, puisque la désinformation sur le climat se répand massivement dans de nombreux médias et notamment en France. CNews, je crois, est en tête du classement. Cette dynamique est d'autant plus inquiétante qu'elle nourrit le climato-scepticisme de l'extrême droite et du Rassemblement national. À l'échelle mondiale, l'alliance de l'extrême droite et du capitalisme fossile produisent les mêmes effets. Les États-Unis concentrent les craintes avec le gouvernement autoritaire de Donald Trump qui censure et qui attaque les sciences dans leur fondement même, dont la science du climat, tandis qu'Elon Musk, lui, utilise son réseau social X pour propager le climato-scepticisme.
Oh, les ramboles, tout ça, mais c'est écœurant à la fin.
Allez, on termine on va essayer de s'en payer une petite tranche, puisque visiblement, du côté de l'extrême droite, si on est climato-sceptique, on invente aussi un peu des délires, et il y en a un qui s'est bien ridiculisé, là, il fait le tour un petit peu de... Il fait le buzz, il s'appelle Mathias Renaud, c'est un député Rassemblement National, et il s'est un petit peu ridiculisé en essayant d'attaquer le festival Les Transmusicales de Rennes. En effet, il veut faire des économies en s'attaquant au secteur associatif et il explique surtout lorsqu'il s'agit de structures idéologiques et militantes. Ça, c'est un peu le but de ce qu'il défendait. Donc, il a déposé une série d'amendements au projet de loi de finances pour 2026. Ça a été révélé par le Canard enchaîné ce 14 janvier. Une série d'amendements visant à réduire les subventions du secteur associatif, si vraiment c'était encore possible. Dans son viseur, les associations de loisirs, surtout, dit-il, s'il s'agit de structures idéologiques et militantes, donc les festivals en souvent, et l'exemple qu'il cite, les Transmusicales, une association connue pour l'organisation de festivals de musique d'artistes transgenres. Ouais, il croyait que les Transmusicales, c'était un festival de trans. Alors ça a fait rire tout le monde, les amateurs de musique se sont étouffés, hein, car bon, je l'explique au cas où, les Transmusicales n'ont absolument rien à voir avec ces sujets LGBTQIA+. C'est un festival qui est né en 1979, avec pour mission de faire découvrir au début la nouvelle scène rennaise, tendance rock, mais depuis ça s'est complètement élargi, c'est devenu un incontournable. On peut citer quelques grands noms montés sur la scène, hein, Étienne Dao, This Is La Peste, Stromae, Justice, Nirvana, Daft Punk, où il y a aussi du rap et de la pop maintenant. Et ce nom, Transmusical, il était inspiré du titre d'un disque qui s'appelle Transmusic Concert à Paris, un enregistrement collectif de free jazz sorti en 1978 sur le label Freebird. Voilà, l'info était très très facilement accessible sur Internet, mais visiblement, ça a été trop compliqué pour lui d'aller chercher ça. Il s'est quand même lancé devant l'Assemblée nationale. Alors, l'amendement a été rejeté par la Commission des Finances, et il a ensuite été carrément retiré avant le début des discussions en séance dans l'hémicycle, histoire peut-être de s'éviter encore une humiliation publique, même si pour ce qui est de l'Internet, c'est raté. Voilà, ça c'est cadeau, vous l'aurez dans la tête pour toute la journée. Je vous laisse là-dessus les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Et puis d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international. Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.